Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 27 mai sur Radio JM, la radio du collège Jean Moulin à Salon de Provence. Je m'appelle Lakshana et je serai avec vous durant toute l'émission, accompagnée des autres élèves de ma classe de 6e 5. Nous sommes 5 élèves en ce moment sur le plateau. Je suis avec Rachel, Amal, Ilouane et Mathis. Salut à vous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Aujourd'hui, on a choisi de faire une émission spéciale sur le thème de la Guinée avec nos professeurs de musique, d'histoire, de français et de sciences. Et Madame Vestrelin, notre professeur documentaliste. Donc, Rachel, Amal, Ilouane et Mathis, vous êtes là pour nous présenter un peu le projet et la Guinée en général.
Oui, comme tu l'as dit, Lakshana, les élèves de 6e 5 vont vous présenter notre projet Globe Reporter, proposé par l'association Le Retour des Allumés, sur lequel nous avons travaillé depuis le 26 novembre 2018. En quoi consiste notre projet ? Premièrement, de découvrir un pays francophone, qui est cette année la Guinée-Conakry, grâce à un journaliste, Raphaël Kraft, qui a séjourné en Guinée pendant plusieurs semaines. Il a rencontré de nombreuses personnes à qui il a posé les questions que nous avons préparées. Puis, il nous a envoyé les enregistrements audio des interviews par Internet pour qu'on puisse les utiliser. Deuxièmement, de nous initier au métier de journalisme par visioconférence au cours de laquelle nous avons fait la connaissance d'Alain Delvapo, journaliste cofondateur de Globe Reporter, qui nous a expliqué les ficelles du métier de journaliste reporter. Pendant la campagne de Raphaël Kraft, il était chargé de mettre en ligne les enregistrements effectués par Raphaël sur place et d'assurer la liaison avec les classes impliquées dans le projet. Quelques semaines plus tard, nous avons rencontré Feriel Alouti, journaliste à Marseille, notre marraine qui est venue au collège. Elle nous a appris ce qu'est un pigiste et comment fonctionne une rédaction.
Troisièmement, de réaliser une émission de web radio dans laquelle nous allons vous présenter le travail fourni dans tout au long de l'année sur des thèmes très différents, tels que la musique, la vie des enfants en Guinée, en termes d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, du recours fréquent au confiage, sans oublier le thème du développement durable avec en particulier la gestion et le tri des déchets, les énergies.
Nous allons faire un point sur la Guinée.
Que sais-tu de la Guinée ?
Il y a 3 Guinées en Afrique, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et la Guinée-Conakry.
Est-ce qu'on parle la même langue partout en Guinée ?
Non, chaque Guinée a sa langue officielle. En Guinée-Bissau, on parle le portugais. En Guinée équatoriale, l'espagnol. La langue officielle de la Guinée-Conakry est le français, car ce pays a été colonisé par la France en 1893 à 1958. Depuis ce jour, la capitale est Conakry. Où se situe la Guinée en Afrique ?
La Guinée-Conakry se situe en Afrique de l'Ouest, sur les côtes de l'Atlantique. C'est un petit pays de 24 057 km² qui compte environ 12 millions d'habitants. Quels sont les pays frontaliers de la Guinée ?
Ce pays est frontalier au nord avec la Guinée-Bissau, au nord avec le Sénégal, au nord-est avec le Mali, à l'est avec la Côte d'Ivoire et au sud avec le Libéria et à la Sierra Leone. À quoi ressemble le drapeau de la Guinée ?
Le drapeau de la Guinée ressemble à notre, mais avec les couleurs rouge, jaune et verte. Et la Guinée est plutôt un pays riche ou un pays pauvre ?
La Guinée est un pays en voie de développement. Elle est une république depuis 2010. Son président est Alpha Condé I. Quelles sont les religions pratiquées en Guinée ?
Il y a 83% de musulmans, 8% de chrétiens et 9% de religions minoritaires. Il y a environ une quarantaine d'ethnies en Guinée, dont 2 principales, les peuples et les malikés.
Merci pour votre présentation du projet et des différents thèmes. Nous allons tout de suite nous mettre dans l'ambiance avec une première musique guinéenne traditionnelle de mariage. Salimon, De retour sur le plateau, je suis avec une deuxième grande équipe qui est composée d'une bonne partie de la classe pour un thème spécial musique. Pourquoi parler de la musique, Walia ?
Parce que la musique est très présente dans la culture guinéenne.
Ok, alors on vous laisse la parole.
Tout d'abord, nous allons décrire ce que représente la musique en Guinée. Puis nous allons vous parler de l'importance de la musique en Guinée, des instruments de musique et du chant traditionnel. On ne peut qu'aimer la musique et la danse guinéenne. Voir un carnaval, un concert ou un mariage africain est un vrai spectacle à part entière. Acrobates africains, percussionnistes et djembe fola sont souvent réunis sur la même scène afin d'offrir un spectacle rythmé et plein d'entrain. Le chant est très important car il permet de raconter une histoire qui est bien souvent celle d'un peuple.
En Guinée, la musique fait partie du quotidien de vie et les chants ont beaucoup d'importance. Ils sont entraînants, très joyeux et racontent souvent l'histoire du peuple. En Guinée, on ne soucie pas la vie des gens. Si l'on veut danser, on danse. Si l'on veut chanter, on chante.
La parole, c'est des rythmes.
Kinima senekelei bo seneti. Eke. Kinima senekelei bo seneti. Eke.
Eke. Kana kuduba. Kana.
Eke.
Kana kuduba. Kana.
Eke.
Kana kuduba. Kana.
Eke.
La vie est rythmée par les bruits du quotidien. Tout devient instrument. Les saladiers remplis d'eau, les bâtons pour piler le mil, les fruits secs appelés calebasses, et même le son des pas peuvent devenir des rythmes. La musique africaine est souvent improvisée. Elle est souvent liée à des rituels. Il y a un chant pour chaque événement. Par exemple, pour les récoltes, les mariages, la saison des pluies, comme nous l'explique Camara Lai dans son livre L'Enfant Noir. Lorsque les adolescents deviennent des hommes, ils se mettent à chanter. Comme beaucoup d'autres pays, la Guinée participe à la fête de la musique qui a vu le jour en 1982 et qui a lieu le 21 juin de chaque année.
À travers le chant et les instruments, les musiciens font connaître leur art en mélangeant tradition et modernité. L'un des instruments utilisés pour valoriser la musique est la kora.
Elle est composée de cordes et d'une calebasse. Selon la légende, la première kora était l'instrument personnel d'une femme génie qui vivait dans une grotte du Mali. Impressionné par l'instrument, un grand chef de guerre décida d'en déposséder la femme génie. Il fut donné à un griot et transmis de génération en génération, de père en fils.
Un griot aussi appelé bard ou djeli en malinké. Le malinké est la langue principale de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des familles de griots célèbres, la famille Diabaté, Kouyaté, Ndour. Vous connaissez tous le musicien et griot Youssou N'Dour, celui qui a créé la musique de Kirikou.
Il y a aussi le balafon. Il existe un balafon sacré historique conservé au village de Niagassola en Guinée. Ce balafon est réputé être le premier de tous les balafons, le balafon original dont tous les autres ne seraient qu'une copie. Il existe d'autres percussions telles que le doum-doum, le quinquennie, et le djembé. Nous allons d'ailleurs vous raconter son histoire de fabrication. Tout commence par l'abattement d'un arbre, on taille le tronc mais assez grossièrement. Puis plus précisément, on forge le cercle qui va servir à tenir la peau de chèvre sur lequel les musiciens joueront. Les enfants apprennent le djembé avec un professeur maître djembé appelé djembé fola. Le djembé est un instrument pratiqué par le célèbre Mamadi Keïta qui a fait beaucoup de musique avec cet instrument.
Mais que sais-tu de Mamadi Keïta ?
Mamadi Keïta est né en 1950. Il est né à Balondougo, près du fleuve Fé en Guinée. Il faut savoir qu'à sa naissance, il n'arrêtait pas de pleurer. Un jour, un étranger est venu dans son village et a dit au père de Mamadi Keïta, « Ne t'inquiète pas, ton fils pleure car il a beaucoup de choses à dire. Il voyagera partout dans le monde. » Il apprend à jouer du djembé dès l'âge de 7 ans. À 14 ans, Mamadi Keïta est sélectionné pour entrer au ballet national Djoliba en tant que batteur et soliste. Jusqu'en 1986, il sera directeur artistique, organisera des concerts et voyagera dans le monde entier. Il deviendra célèbre comme l'avait prédit l'étranger. Il vit maintenant au Mexique et mène une vie épanouie.
Nous allons maintenant écouter Kassa, une musique africaine chez Mamadi Keïta et d'autres musiciens. Kassa signifie silo à grains et célèbre le rituel de la fin des récoltes. Comme dans beaucoup de musiques africaines, il y a de la polyrythmie, plusieurs rythmes superposés, de la musique responsoriale, un soliste chanteur et un chœur qui répond, que l'on retrouvera au sud des États-Unis dans la musique des chants de travail et des gospels que chantaient les esclaves africains dans le chant de coton, et de la danse.
Ils donnent beaucoup d'importance à la danse dans leur culture. Kassa est aussi le nom des rythmes, car dans la musique africaine, les rythmes portent des noms comme le yantaou, le soli et le makuru.
Nous avons appris un chant africain qui s'appelle Aboroma en classe de musique. Puis nous l'avons accompagné avec des instruments. Les paroles de la chanson signifient « Est-ce qu'elle danse cette danse ?» ou « Ne danse-t-elle pas cette danse ?» et « Peux-tu le croire ? La femme Baga danse même dans sa voiture. » Nous avons commencé à l'écouter, à écouter l'appel.
Mais qu'est-ce qu'un appel ?
Un appel est un morceau de musique court qui définit le début et la fin de la musique qui est jouée par le chef des djembés.
Puis nous avons entendu l'appel avec nos instruments.
Nous avons chanté et nous nous sommes accompagnés avec des instruments africains, le djembé, le koluche kenkeni et le doum-doum.
Comment tenir un djembé ?
On doit déjà s'asseoir et on doit tenir le djembé entre les jambes légèrement penchées vers l'avant, car sinon le son ne sort pas du tout.
Qu'est-ce que vous avez aimé quand on a chanté et joué ensemble ?
J'ai aimé quand j'ai joué du djembé et du doum-doum. C'était rigolo et j'ai aimé la musique car elle était énergique.
J'ai aimé ce projet car j'ai travaillé en groupe. C'est génial. Partager ce que je sais, c'est génial.
J'ai beaucoup aimé ce projet car il était joyeux à travailler en commun. C'est une très bonne expérience, surtout lorsque c'était au tour de la radio.
J'ai bien aimé quand on a chanté ensemble. C'était génial. On jouait du doum-doum, du djembé. C'était un chant très énergique.
J'ai adoré tout ce qu'on a fait en musique avec le djembé. C'était super. Le chant à Boromba était super aussi. J'espère continuer avec ça. Nous vous laissons écouter notre travail.
Merci à tous pour ces belles découvertes musicales. Pour la suite de l'émission, on s'est demandé comment vivaient les enfants de notre âge en Guinée. Je suis avec Mia, Mélissa, Rachel et Amal, qui vont nous parler de la vie et de l'éducation des enfants. Je leur laisse la parole.
Nous allons vous parler de l'éducation en Guinée. Nous avons travaillé à partir des témoignages de Mariama, une jeune Guinéenne de 18 ans. Fille du chauffeur de Raphaël Kraft et d'Abdoulaye Wan, le fondateur de l'école Amdalaï de Conakry.
Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente d'être là pour poser des questions sur la vie quotidienne des enfants. Alors, comment vit un enfant guinéen ?
La plupart des enfants vivent pauvrement ou modestement. Ils vivent en appartement, notamment à Conakry, ou le plus souvent en maison individuelle. Le plus souvent, on parle de familles nombreuses avec 5 à 7 enfants. Celle-ci est grande ou petite. Cela dépend des moyens financiers. Il faut parfois se partager les chambres. Les familles guinéennes ont fréquemment recours au confiage qui consiste pour des parents à confier leur enfant à un autre membre de la famille. La plupart du temps, le confiage se passe bien, mais parfois l'enfant peut être maltraité. Simone Mara, capitaine de police, précise qu'en Guinée, c'est un péché d'exploiter les enfants et que de manière générale, les enfants exploités fournissent beaucoup d'efforts pour quitter les lieux et réussissent mieux que les autres.
Alors, est-ce que les enfants vont à l'école ? Si oui, comment ?
Certains enfants vont à l'école, d'autres non. Cela dépend des moyens financiers de la famille. Il y a parfois beaucoup de kilomètres à parcourir pour se rendre à l'école, ce qui rend les trajets parfois difficiles. Les enfants y vont en bus ou effectuent une partie du trajet en bus et le reste à pied pour limiter les frais. Mais je me demande, que font les enfants à l'école ?
À l'école, les enfants étudient la langue française, les mathématiques et notamment le calcul, l'histoire, géographie, l'éducation civique, le moral, la SVT, le PC dans les écoles privées. Il y a en plus l'anglais et l'informatique. Au collège, les élèves étudient en plus le physique, chimie et l'anglais. À la récré, leur jeu préféré est la corde à sauter pour les filles et le foot pour les garçons. Les sorties scolaires sont au nombre de 1 à 2 par an. C'est l'occasion pour les enfants de découvrir d'autres lieux. De plus, les parents ne laissent pas sortir leurs enfants le soir, au cinéma par exemple. Sauf quand ils commencent à être au lycée, car ils craignent le problème d'insécurité. Les enfants qui ont obtenu une bourse sont rares, comme Laï dans L'Enfant Noir.
Qu'est-ce que L'Enfant Noir ?
L'Enfant Noir, c'est un roman et aussi une BD de Camara Laï, qui est une autobiographie, qui part d'un enfant nommé Laï, qui habite en Guinée-Conakry. Laï raconte sa vie au lecteur. Sa famille est plutôt spéciale, magique. Il grandit et obtient une bourse. Il fait sa vie quoi ? Alors, que font les enfants quand ils ne sont pas à l'école ?
En Guinée, les filles aident beaucoup à la maison pour faire le ménage, le linge, faire à manger. Les garçons sont moins sollicités. Ils peuvent aller chercher de l'eau, par exemple. Certaines filles sont d'ailleurs contraintes de se marier très jeunes. On parle de mariage précoce. En Guinée, de nombreuses associations défendent les droits des filles. C'est le cas dans d'autres pays également comme l'Inde.
Merci Nia et Mélissa. Nous allons maintenant vous parler un peu plus de l'éducation avec Amal et Rachel. En Guinée, l'éducation primaire dure 6 ans. Par ailleurs, l'école maternelle n'existe que dans la zone urbaine et est en général privée. C'est pourquoi tous les enfants ne sont pas scolarisés. On estime que seulement 50% des enfants guinéens suivent un enseignement scolaire.
Dis-moi Sarah, quelles sont les différences entre l'école en France et en Guinée ?
L'école publique est gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans. En Guinée, l'école publique est gratuite. Mais sais-tu qu'il faut louer un banc qui coûte 20 à 30 euros la première année, puis 2 euros chaque année ?
Dire à Mal à quel âge les enfants vont à l'école. Et il y a autant de filles que des garçons ?
En règle générale, les enfants sont scolarisés à 6 ans. Mais de plus en plus, ils le sont à partir de 3 ans. En moyenne, il y a 40% de filles et 60% de garçons. Souvent, les filles arrêtent l'école très jeunes pour des raisons culturelles comme se marier ou travailler à la maison.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles en Guinée et comment les enfants s'y rendent-ils ?
Entre 2005 et 2015, le nombre d'écoles a bien progressé. Mais le problème qui se pose, c'est qu'elles sont souvent loin du domicile des élèves. Ils utilisent donc des transports scolaires, mais la plupart des élèves viennent à pied pour limiter les frais. 2 kilomètres pour l'école primaire et parfois plus si on va au collège.
Et les classes sont-elles chargées ?
Dans le public, il peut y avoir jusqu'à 70 élèves par classe, car il y a un manque d'infrastructures et d'enseignants. Dans le privé, les effectifs sont plus réduits, de 18 à 30 élèves en moyenne.
Qu'étudient les Guinéens à l'école ? Ont-ils les mêmes matières que nous ?
Oui, à quelques exceptions près. Ils apprennent le français, les mathématiques, la physique-chimie, la biologie, l'anglais, l'histoire-géo, l'éducation civique et morale, le PS. Mais je crois qu'ils n'ont pas d'enseignants artistiques.
Ah bon ? Et pour ceux qui aiment dessiner ?
En fait, ils peuvent pratiquer plus facilement les activités culturelles dans les écoles privées.
Sais-tu, Rachel, si les élèves portent des uniformes en Guinée ?
Oui, ils ont un uniforme. À l'école primaire et au collège, il est kaki. Au lycée, les élèves portent une chemise blanche avec un pantalon ou une jupe bleu marine.
Quand les élèves ne se comportent pas bien, Quelles sont les punitions et sanctions prévues ?
Les élèves ne sont pas souvent punis car ils sont très respectueux. Ils peuvent s'excuser s'ils ont mal parlé, mais dans certains cas, ils peuvent aussi être exclus.
Pour conclure, on peut dire que de grands progrès en matière d'éducation ont été réalisés ces dernières années. D'après les chiffres du ministre, le taux de scolarisation en 2015-2016 était de 75,6% pour les filles et de 93,4% pour les garçons. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour réduire notamment les inégalités entre les garçons et les filles. En fait, en France, que l'État investisse beaucoup dans l'éducation pour garantir à tous les élèves l'égalité des chances.
Comme on l'a dit au début de la chronique, pas tous les enfants ont la chance d'aller à l'école. Et c'est ce qui nous a fait réfléchir au thème suivant, sur les droits des enfants, juste après une petite pause musicale. De Bassisoko, qui est justement lui aussi un griot, comme nous en parlions dans la chronique musique. C'est donc avec Ariana, Sarah, Mathis et Loric que nous allons maintenant parler des droits de l'enfant. Salut à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Ariana et Sarah, on vous laisse la parole.
Bonjour, nous allons vous parler des droits de l'enfant en Guinée. L'État guinéen a établi des lois pour garantir les droits de l'enfant, mais en partie, les droits de l'enfant ne sont pas trop respectés. Bonjour Zara, que peut-on dire les droits de l'enfant à la santé en Guinée ?
Bonjour, les droits à la santé sont inégalement respectés. La mortalité des enfants est importante, le taux de vaccination est faible. En Guinée, il y a une crainte à faire vacciner les enfants. De plus, la population n'a pas toujours accès à l'eau potable. Certains enfants sont victimes de malnutrition.
Quels sont les autres problèmes auxquels peuvent être confrontés les enfants ?
Bon, il y a des jeunes filles qui sont confrontées au mariage précoce, c'est-à-dire qu'elles se marient avant l'âge de 18 ans, sans leur consentement. Elles sont alors déscolarisées et quittent leur famille alors qu'elles sont encore très jeunes. Elles doivent s'occuper de leur famille et effectuer des tâches ménagères.
Ah bon ?
Et il existe dans certaines régions de Guinée la précarité et le manque d'hygiène. Les jeunes filles subissent des excisions qui entraînent de graves conséquences sur leur santé et engendrent des infections, des hémorragies à la suite de l'opération.
Waouh, c'est très perturbant. Est-ce que certains enfants sont obligés de travailler ?
Certains enfants sont obligés de travailler pour aider leurs parents. Et ça veut dire qu'ils arrêtent leurs études. De plus, cela peut avoir de graves conséquences sur leur santé.
Merci pour toutes ces explications, Sarah. On peut dire qu'en Guinée, les enfants ont moins de droits qu'en France.
Le confinage est très répandu en Guinée, comme le problème des enfants qui se retrouvent dans la rue.
Mais qu'est-ce que le confinage ?
Le confinage est une pratique sociale très courante en Guinée qui consiste à confier durablement un enfant à un membre de la famille, un oncle ou une tante ou un cousin. Cette pratique permet de compenser les manques de l'État dans la prise en charge des enfants. Elle permet d'aider financièrement la famille en difficulté, de scolariser un enfant, de retrouver une famille si les parents sont décédés. Les membres de la famille auxquels l'enfant est confié doivent l'élever, l'héberger, le nourrir et payer les frais de scolarité. Comment est organisée une famille en Guinée ?
Le grand frère, l'aîné de la famille, a le droit sur les frères. En tant que mère de famille, Simone Marat, capitaine de police, est responsable de la famille, mais ne décide pas sans l'avis du grand frère. Elle est considérée comme la maman, et quand la maman devient vieille, elle est remplacée par la plus grande fille, et le père est remplacé, et le grand frère est remplacé par le papa. L'aspect social est important. Quand il y a un problème, il faut un représentant, quelle que soit la distance à parcourir. Par exemple, ici, le mari de sa Benjamine est décédé, et le grand frère et Simone sont allés représenter la famille dans le village du mari. Les Guinéens s'entraident beaucoup, y compris pour les enfants des frères et sœurs. Ceux qu'on nomme cousins en France sont appelés frères en Guinée. Si vous adoptez un enfant, il devient frère au sein de la famille. Simone a grandi dans la même maison que ses cousins. Est-ce que dans certains cas, plusieurs générations vivent ensemble ?
Il est fréquent que plusieurs générations vivent ensemble. Simone a les enfants de ses grands-parents. On lui a confié la fille du frère de son père. Combien y a-t-il d'enfants en moyenne par famille ? Quelle est la place de l'enfant dans la famille ?
Il y a beaucoup d'enfants dans une famille, de 5 à 7 le plus souvent. Dans la famille, l'enfant est très important. Il est éduqué dans l'optique qu'un jour, il vienne en aide à ses aînés si nécessaire. Les familles investissent sur l'éducation des enfants. Les familles n'ont pas forcément les moyens d'ouvrir des comptes pour les enfants, mais ils prennent soin d'eux pour les nourrir, les habiller. Il faut respecter le grand frère, les parents, tout le monde de la même manière. Est-ce que tout le temps ça se passe bien ?
Dans la majorité des cas, le confiage se passe bien, mais quelquefois l'enfant qui est confié ne s'adapte pas à sa nouvelle vie ou est exploité par la famille. Et aussi, malheureusement, certains enfants se retrouvent dans la rue. Mais comment cela est-il possible ? Existe-t-il des associations pour s'occuper de ces enfants ?
Des structures d'accueil pour les enfants en situation difficile existent en France, mais pas en Guinée. Mais certaines associations comme les ONG, organisations non gouvernementales, essaient de s'occuper de ces enfants, mais manquent souvent de moyens humains et financiers. Écoutons le témoignage d'Aurore Lecamp, éducatrice et travailleuse sociale en Guinée sur le sujet.
Quand on se balade dans les rues de Conakry, je crois que c'est la chose qui va pouvoir nous sauter un petit peu aux yeux. En effet, il y a beaucoup d'enfants qui passent beaucoup de temps dans la rue. Alors parfois, on fait la différence. Il y a des enfants qui vont passer leur quotidien, la grande majorité de leur journée dans la rue, mais qui vont pouvoir regagner un foyer le soir. Et d'autres enfants, en effet, pour qui la rue est aussi leur lieu de... on va dire, je ne sais même pas si c'est le terme adapté, leur lieu d'hébergement. Ils dorment aussi dans la rue.
Leur lieu de survie.
Leur lieu de survie, oui.
On constate aussi qu'il y a beaucoup d'enfants handicapés dans les rues. Comment ça se fait ?
Le plus simple, c'est d'écouter le témoignage d'Aurore sur le sujet.
En effet, là aussi, quand on se balade dans Conakry, on peut voir un grand nombre de personnes en situation de handicap dans la rue. Souvent, ces personnes, leur seul moyen de survivre, c'est la mendicité. Donc on trouve en effet ces personnes-là qui, sur des lieux stratégiques, font ce qu'on appelle la mendicité. Et au final, à Conakry, il y a très très peu d'ONG qui œuvrent sur cette thématique-là. C'est vraiment une thématique qui est encore pour des raisons culturelles, méconnue en Guinée.
Vous voulez dire qu'une personne handicapée, ici, peut être considérée comme portant la poisse, portant malchance ?
C'est tout à fait ça, en fait, par rapport à la culture guinéenne. Les familles qui ont eu un enfant en situation de handicap sont considérées comme des familles maudites. Ce qui explique que du coup, ces enfants ne vont pas forcément être scolarisés, pas forcément considérés dans la société. Oui.
Mathis et Lauric, c'est vous qui avez choisi ce dernier extrait pour parler du handicap. Pourquoi ce choix ?
Nous sommes sensibilisés à la question du handicap et cela fait de la peine de voir ces handicapés qui sont rejetés et considérés comme un chagrin.
Exactement.
En conclusion, on peut dire qu'il y a encore des progrès à faire en Guinée pour les droits des enfants. Et dites-moi, Ariana, Sarah, Mathis et Lauric, pour vous, pensez-vous qu'au niveau écologie et environnement, la Guinée soit plus avancée que pour l'éducation ?
Non.
Non.
Non, pas spécialement.
C'est le dernier thème qu'on va aborder avec Yassem, Amine et Amal. Juste après une dernière pause, où l'on va profiter d'écouter en entier le morceau Kassa de Mamadi Keïta, dont on a eu un extrait pendant la première chronique.
Kela miloni sala ya kaluma e baraba nala
kasere o lona e kasere o bamba elela
kela miloni sala ya kaluma e baraba nala e ko
kasere o lona e kasere o bamba elela
kela miloni kankan kaluma e baraba nala
kasere o lona e kasere o bamba elela
kela miloni benso kaluma we baraba nala e ko
kasere o lona e kasere o bamba elela
kela miloni mamu kaluma e baraba nala
kasere o lona e kasere o bamba elela
kela miloni konakiri kaluma we baraba nala e ko
kasere o lona e kasere o bamba elela
Kaluma e baraba nala
kansere yo lona e kansere yo bamba elena e
notre dernier plateau. Nous sommes donc avec Yassem, Amine et Amal pour parler du développement durable en Guinée. Salut.
Bonjour.
Alors Amal, est-ce que les déchets sont bien gérés en Guinée ?
En Guinée, la gestion des déchets n'est pas très bien mise en place. Et le tri non plus, car à Conakry, il n'y a qu'une seule décharge qui se nomme la minière. Et c'est insuffisant. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous voulons vous parler de la gestion des déchets et du tri des déchets en Guinée. On s'est beaucoup intéressé à cette question. Surtout quand on a entendu qu'il y avait eu un éboulement à la décharge de la minière en août 2017 qui avait fait 10 morts.
Comment cela est-il arrivé ?
C'est la seule décharge et tous les déchets de Conakry s'y retrouvent et avec la pluie ça a provoqué un éboulement.
Et c'est surtout parce que l'État ne s'occupe pas très bien de la gestion des déchets.
Et maintenant, comment font-ils pour qu'il n'y ait plus d'éboulement ?
Un projet a été mis en place. L'Union européenne participe au financement du projet en donnant 35 millions d'euros. Et la Banque islamique de développement se joint au financement en donnant 54 millions de dollars.
Est-ce que Conakry est une ville sale ?
Oui, la ville de Conakry est sale. On voit des déchets par terre. Elle produit 1200 à 1300 tonnes de déchets par jour. En France, on produit 25 tonnes de déchets par seconde, soit 4 fois plus que les habitants de Conakry. Sachant que dans les villages, les Guinéens ne produisent presque pas de déchets. Une des missions de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique est de mieux gérer la gestion des déchets en faisant appel à un opérateur professionnel qui s'occupe de la collecte, du transfert et de la transformation des déchets sur la capitale Conakry. L'objectif est d'étendre cette initiative à toutes les villes de Guinée.
Y a-t-il beaucoup de poubelles à disposition pour récupérer les déchets ?
Il manque actuellement de poubelles mises à disposition, mais il est prévu d'en mettre 22 000 en circulation en 2019. Cela s'accompagne d'une meilleure gestion du transfert des déchets à la décharge.
Est-ce que les Guinéens génèrent beaucoup de déchets, en particulier des déchets en plastique ou autres ? Observe-t-on des différences entre ville et campagne sur ce point ?
On observe de grandes différences entre Conakry et les villes et villages de l'intérieur. Conakry produit beaucoup de déchets plastiques et métalliques. Il y a beaucoup moins de déchets plastiques dans les campagnes. Ceci dit, les Guinéens polluent beaucoup moins que les Européens et ont un bilan carbonique bien plus faible. Deux filières de valorisation des déchets plastiques vont être mises en place en 2019.
C'est également une source d'emploi pour les jeunes. Le tri sélectif vient de commencer et est géré par les ONG. Il y a des usines de traitement, des plastiques dont la gestion va être améliorée.
Quel est le devenir des déchets? Comment sont-ils valorisés?
C'est un secteur très porteur. La décharge de la minière fait 25 hectares et est génératrice d'emplois.
Les Guinéens produisent-ils le compost?
La production du compost n'est pas systématisée et tout le monde ne la pratique pas. Le compost constitue une source utile pour les paysans et la Guinée encourage la production du compost à une plus grande échelle.
Est-ce que vous faites du compostage?
Le compostage n'est pas répandu. Il l'était peut-être davantage auparavant. Le problème est que les déchets organiques ne sont pas valorisés et sont mélangés aux autres déchets. Par ailleurs, il est dommage que la Guinée fasse la promotion des engrais chimiques alors qu'elle possède une terre riche et fertile.
Quels sont les moyens mis en place pour permettre une meilleure gestion des déchets?
L'ONG Femmes, Pouvoir et Développement effectue un travail de sensibilisation sur le terrain. Il y a un an et demi, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique a été créée, mais elle manque de financement. Une opération citoyenne d'assainissement a été lancée il y a 6 mois, mais cela ne suffit pas. Il faut des mesures fortes au niveau législatif, un respect de conventions qui ont été signées par rapport à certains polluants, l'importation des produits suremballés est interdite par le ministre du Commerce. Il n'y a pas assez de coordination dans les différentes actions menées.
Quelles sont les principales difficultés face au tri des déchets?
Il y a un manque de poubelles dans certaines concessions. Il n'y a qu'une poubelle et tout le monde jette au même endroit. On pourrait obliger les entreprises privées de Conakry à mettre en place des hangars de recyclage de leurs propres produits. Et il serait utile de fournir des poubelles aux vendeurs et aux ménages qui sont dans les environs. Il faudrait également proposer des bennes publiques pour les différents déchets, vêtements, compost, plastique, et éduquer la population en utilisant les moyens à disposition comme la télévision, les réseaux sociaux. La gestion des déchets est la responsabilité de tous. Le gouvernement, les entreprises, les citoyens.
En France, on arrive à utiliser les déchets pour produire de l'énergie en les brûlant.
Ah bon? Et en Guinée, ils utilisent quoi?
En Guinée, ils utilisent principalement l'énergie thermique, issue du charbon, de bois, mais il y a des conséquences. Cela entraîne la déforestation. Et c'est pas bon pour l'environnement.
Alors, quelle énergie ne pollue pas pourrait-il utiliser?
L'énergie solaire est en voie de développement, car il y a beaucoup d'ensoleillement.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'hiver?
Eh oui, donc ils n'ont pas besoin de chauffage dans la maison.
Ok, ils n'ont pas de chauffage, mais ils ont des voitures. Et avec quelle énergie fonctionne-t-elle?
Les Guinéens utilisent essentiellement les voitures individuelles, au gasoil ou essence. Ceci engendre beaucoup de bouchons et de pollution dans la ville de Conakry. Et ils n'ont pas de transport en commun.
Mais le gouvernement veut limiter la durée de vie des véhicules importés. De France peut-être, qui sont vieux et qui donc entraînent une pollution importante dans l'atmosphère.
Ouh là là, il y a du travail pour l'environnement, le tri des déchets et les voitures.
Et en France?
Je sais pas.
Merci à vous pour cette chronique. Voilà, l'émission se termine. Nous avons appris beaucoup de choses sur la Guinée. Merci de nous avoir écoutés et merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci aussi à Frédéric et Christelle qui nous ont aidés à faire tout ça. Merci aux professeurs qui nous ont impliqués dans ce projet. On se quitte en musique avec un extrait du concert de Mamadi Keïta au Festival Jazz sous les pommiers. Koustas, au revoir.